all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin.
La série musicale de l'été, Les Sons du Mur. Simon Rico.
Ich bin ein Berliner.
Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre semaine consacrée à l'histoire du mur de Berlin, en passant à l'Est pour une nouvelle balade sonore à la découverte, cette fois, de l'ost-rock et des rébellions punk qui secouèrent la RDA.
Le rock à Berlin-Est, ce n'est pas fréquent et on ne peut pas non plus le filmer très souvent. C'est donc tout l'intérêt du reportage d'Hélène Risacher et d'Ambroise Perrin.
Ce sont des motivations personnelles qui nous font rester, la famille, les amis. Mais surtout, à mon avis, on peut essayer ici de faire ce qu'on a envie de faire, même contre le régime. C'est à chacun de se déterminer.
La jeunesse d'Allemagne de l'Est, qui a choisi de rester en RDA, a encore de l'espoir. Bien sûr, ils ont couru voir l'Ouest dès qu'ils ont pu, mais ils sont revenus. Chez les artistes, on connaissait déjà. Grâce à leur métier, les musiciens avaient déjà voyagé en Europe. Un temps d'avance qui leur a permis de commencer à réfléchir sur l'opposition politique et sur l'avenir d'un nouveau socialisme est-allemand. Car ici, le modèle de l'Ouest ne séduit pas complètement.
Il a fallu attendre le 17 novembre 1989, 8 jours donc après la chute du mur, pour voir à la télévision française les premières images consacrées à la scène rock de RDA. Et pourtant, les guitares saturées résonnaient depuis longtemps côté est de l'Allemagne. On pouvait les entendre depuis le début des années 60, même si les autorités communistes tentaient déjà de canaliser les penchants de ces enfants pour les groupes vedettes venus de l'Ouest. Pour parvenir à ses fins, le régime s'est très tôt appuyé sur la puissante organisation de la jeunesse libre allemande, la FDJ, qui avait notamment pour mission d'endiguer la percée du rock capitaliste parmi les teenagers socialistes. Une manœuvre qui n'empêchera pas la formation de scènes contre-culturelles, punk ou même rap, qui tenteront d'exister malgré la féroce chasse de la Stasi. Au début des années 60, au moment où le mur se met à dresser sa sinistre carcasse de béton au cœur de Berlin, c'est le twist qui résonne des jukebox de la République démocratique allemande. Voilà par exemple Unsere Liebe, notre amour, une bluette de 1964 comptée sur un rythme endiablé par Britt Kirsten, sorte de France Gall de RDA.
Zwei, drei, vier, bleib ein bisschen bei mir. Warum lässt du mich so einfach stehen? Deine Eifersucht ist so dumm, macht uns nur das Leben schwer. Sieh doch endlich ein, ich bin treu, denn ich liebe dich so sehr. Ein, zwei, drei, warum gehst du vorbei? Tut mir leid, das kann ich nicht verstehen. Unsere Liebe. Das kann ich nicht verstehen. Unsere Liebe, unsere Liebe kann doch so schnell nicht vergehen, vergehen. Unsere Liebe, unsere Liebe ist noch so jung und schön.
Unsere Liebe,
autorités est-allemandes s'agacent vite de la domination culturelle américaine qui s'impose dès l'immédiate après-guerre. Lors du soulèvement populaire de juin 1953, le premier de tout le bloc de l'Est, le pouvoir communiste pointe d'ailleurs la mauvaise influence des films, de la littérature et de la musique venus d'Occident qui auraient incité les ouvriers à la violence. Pour contrer ce qu'il appelle la décadence capitaliste, Walter Ulbricht, le premier dirigeant est-allemand, va donc promouvoir la création d'une culture officielle à destination de la jeunesse. À la fin des années 50, la loi 60-40 est instaurée pour interdire la diffusion à la radio, à la télévision et dans tout espace public de plus de 40% de musiques occidentales. Les groupes doivent en outre passer des auditions, histoire de s'assurer qu'ils jouent une musique décente. Face à cette reprise en main, plusieurs manifestations ont lieu en RDA, notamment à Leipzig et à Dresde, pour réclamer plus d'Elvis Presley, plus de Bill Haley, bref, plus de rock'n'roll. Certains des protestataires écoperont de peines de prison ferme, de même que plusieurs jeunes fans jugés comme des menaces pour l'État socialiste. À l'époque, les Sputniks, un nom qui rend évidemment hommage au tout récent satellite soviétique, font guincher les teenagers socialistes avec leur beat très inspiré par les Shadows. On écoute Shazam, reprise d'un tube américain signé Dwayne Eddy. En Allemagne de l'Est, on ne comptait que 6 maisons de disques qui étaient toutes des filiales de l'entreprise d'État Deutsche Schallplatten, les disques allemands. Parmi elles, une seule, Amiga, éditait des musiques populaires. Fondée en 1947, Amiga a disparu en 1994 après son rachat par le groupe BMG. Aujourd'hui, c'est Sony qui détient les droits de son catalogue, riche de plus de 2000 albums et 5000 singles. Dans une RDA où l'économie était totalement planifiée, Amiga se devait de respecter des quotas dans les genres musicaux qu'elle publiait. 25% de Schlager, la variété allemande, 15% de blues et de jazz, 10% de musique pour enfants, 10% de musique classique et 25% de rock et de pop. Amiga commercialisait aussi certaines vedettes venues de l'Ouest, les Beatles, les Rolling Stones, Deep Purple ou plus tard ABBA et Michael Jackson figurent par exemple à son catalogue. Dans les années 60, le Theo Schumann Combo multiplie les sessions studio pour Amiga, assurant le backing de nombreuses vedettes locales. Le groupe sort aussi quelques disques instrumentaux en son nom et gagne même le droit de figurer sur plusieurs compilations de tubes de variétés est-allemandes, comme le funky Derby, qu'on croirait sorti d'un film de Blaxploitation, socialiste évidemment. We'll be right back.
Bis zum Auftritt der Rolling Stones konnte die Bühne durch Ordnerkräfte freigehalten werden. Dann aber wurden die Ordner überlaufen, die Bühne gestürmt, Polizeikräfte mussten eingreifen. Während und nach dem Auftreten der Beatband feierte die Zerstörungswut hemmungsloser Jugendlicher wahre Triumphe.
Le 15 septembre 1965, le concert des Rolling Stones à Berlin-Ouest se termine au bout de 25 minutes par de violents affrontements entre les fans et la police qui dispersent la foule à coups de canon à eau. De l'autre côté du mur, où les autorités étaient encore assez tolérantes vis-à-vis des jeunes portant des jeans et les cheveux longs, on prend peur. Face à la menace potentielle que représente cette musique rebelle capitaliste, le régime adopte des mesures drastiques. Une cinquantaine de groupes officiels sont bannis, dont The Butlers, l'une des formations les plus appréciées de la jeunesse est-allemande. La manifestation organisée en signe de protestation sera violemment dispersée par les Vopo et plusieurs meneurs passeront même quelques semaines sous les verrous. Quant au port des cheveux longs, il est désormais prohibé en RDA. En décembre 1965, le comité central du Parti communiste entérine officiellement la répression culturelle contre tout ce qui vient de l'Ouest. Erich Honecker, le futur dirigeant de la RDA, fustige l'immoralité et la décadence américaine. Après Bill Haley et Elvis Presley dans les 50s, les nouveaux ennemis du socialisme s'appellent alors John Lennon et Mick Jagger. Pour les Butlers et toute la scène beat est-allemande, c'est le début de la clandestinité. En 1968, pendant que les étudiants de RFA se révoltent contre l'autoritarisme et l'impérialisme de leurs dirigeants, une partie de la jeunesse de RDA se mobilise pour soutenir le printemps de Prague. Mais de ce côté-ci du mur, ce ne sont pas les étudiants qui sont à la tête du mouvement, ce sont les jeunes ouvriers. Pourquoi ? Eh bien parce que les étudiants issus des couches populaires manifestent surtout de la reconnaissance vis-à-vis d'un pouvoir communiste qui leur a permis d'accéder à une meilleure situation. Au mois d'août, quand les chars du pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie, ce sont donc surtout les jeunes ouvriers au CIS qui vont distribuer des tracts de soutien à la libéralisation du régime socialiste qu'avait promu Kubitschek. Ce sont eux, toujours, qui jouent des tubes occidentaux dans les fêtes informelles. Les autorités de RDA auront tôt fait de mettre en cause, une fois de plus, la dépolitisation de sa jeunesse sous la mauvaise influence capitaliste. Pour ne pas risquer d'être censuré, mieux vaut alors vanter les réussites du socialisme triomphant et notamment la conquête spatiale, à l'instar de Thomas Luc en 1969 avec le psychédélique Cosmos.
Wir fliegen durch den Sonnenschein und wir sammeln dabei Schäfchenwolken ein. Sind wir dann hoch oben im Raum zum Rendezvous, winken Himmelsbrüder, lachen Grüße zu. Wir sehen in dem Weltenraum unsere Erde schweben, fern und märchenblau. Stell dir vor, man kann uns im Kosmos tanzen sehen, wie wir beide schwerelos uns im Kreise drehen.
Der unzerstörbaren Freundschaft zwischen dem Volk der Deutschen Demokratischen Republik und den Völkern der ruhmreichen
En 1971, l'arrivée au pouvoir d'Erich Honecker à la place de Walter Ulbricht va ouvrir une période de détente entre les deux Allemagnes. Cela se concrétise dès l'année suivante par la signature du traité fondamental avec la RFA de Willy Brandt. Ce rapprochement tient beaucoup à l'Ostpolitik, la doctrine d'ouverture que promeut le chancelier ouest-allemand avec l'objectif de préserver les chances d'une future réunification. Ce changement se ressent également sur le plan artistique. Le rock et la pop sont dès lors considérés comme des genres musicaux officiels qu'il faut tolérer et encadrer. La loi de 1965 sur les cheveux longs est détricotée. La production musicale n'est plus sommée de respecter à la lettre les canons artistiques du réalisme socialiste et quelques groupes s'autorisent des délires psychédéliques sans être inquiétés. Malgré le desserrement de l'étau, les textes des chansons restent très surveillés. Des auteurs sont même commissionnés par le régime pour écrire des paroles adaptées. Pour échapper à la censure, il faut donc passer par des chemins détournés et recourir à des métaphores finement ciselées. Un art dans lequel excellent alors les rockers du Klaus Renft Combo, groupe de Leipzig issu des Bootlers, qu'on écoute ici avec Zwischen Liebe und Zorn, entre amour et colère, l'ambigu face B de leur premier 45 tours paru en 1972.
Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige unregt sich. Zwischen Liebe und Zorn reift der Mensch und er bewegt sich. Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist. Der am Hintern zu schwer und im Kopf zu bequem ist. Ist kein Bett und kein Thron für den Arsch zufriedener Leute. Denn sie lebt in dem Sinn, dass der Mensch dem Menschen wert ist. Dass der Geist der Kommune dem Genossen Schild und Schwert ist. Drängt nach vorn,
1975, 10 ans après l'interdiction des Butlers, Klaus Renft est de nouveau banni par les autorités est-allemandes. Le 22 septembre, il a rendez-vous avec son combo pour le renouvellement de leur permis de jouer en public. À peine sont-ils entrés dans le bureau que le comité leur annonce qu'ils n'existent plus. En cause, leurs paroles, qualifiées d'insultes à la classe ouvrière et de diffamation à l'égard de l'État socialiste. Non seulement les musiciens du Klaus Renft Combo ne peuvent plus donner de concerts, mais le catalogue du label Amiga a été réimprimé pour les en faire disparaître purement et simplement. Klaus Renft parvient à s'enfuir en RFA, tandis que deux de ses acolytes sont emprisonnés jusqu'en 1977, jusqu'à ce que Bonn ne rachète leur liberté. À l'opposé, les Poodies furent les rockers modèles de la RDA, ce qui leur permit d'écouler des millions de disques de part et d'autre du rideau de fer. Fondé en 1969, le groupe est d'ailleurs l'un des rares de l'Est à avoir survécu à la réunification. Certains sujets étaient tabous. Nous avions par exemple une chanson sur les homosexuels et on nous a dit que ça n'était pas autorisé. Elle s'est finalement appelée le non-conformiste, racontait le chanteur Dieter Bier à l'AFP. Voilà qui n'empêchait pas les Poodies de copier à l'identique les mélodies de tubes occidentaux. Get to Here, par exemple, leur hit de 1973, plagie note pour note le look What You Done des Anglais de Slade.
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Augen zu, dann siehst du nur diese eine. Halt sie fest und lass deinen Drachen steigen.
Au moment où les derniers membres du Klaus Renft Combo sont expulsés à l'ouest, une lame de fond, la rébellion punk, commence à secouer la RDA. Mais de ce côté-ci du mur, le mot d'ordre ce n'est pas « no future », c'est « too much future ». Parce que l'avenir de chaque citoyen est-allemand ressemble à un parcours parfaitement balisé, cadenassé même, école, organisation de jeunesse, service militaire, travail à l'usine, retraite, le tout en baissant docilement la tête. Alors, quand les premières images d'iroquoises anglaises sont diffusées dans les journaux d'Allemagne de l'Est au titre de propagande anticapitaliste, une partie de la jeunesse aussi y voit illico un modèle à suivre pour échapper à cet avenir tout tracé. Des groupes se montent à Berlin-Est, Dresde ou Leipzig et une petite scène punk se construit peu à peu en RDA. Évidemment, aucun de ces groupes n'est commercialisé par le label d'État Amiga. Les cassettes s'échangent discrètement sous le manteau et les rares archives de ces enregistrements pirates, aujourd'hui disponibles, sont d'une piètre qualité sonore. Voilà l'un des plus audibles, Nazis Wieder in Ostberlin. Les nazis sont de retour à Berlin-Est, un brûlot des Namenlos, les sans-noms, qui s'attaque à l'antifascisme, l'un des piliers du régime socialiste. Tandis que les premières crêtes font leur apparition dans les rues de Berlin-Est, c'est la fin de la détente. La situation politique se tend de nouveau entre les deux blocs. 1977 marque en effet le début de la crise des euromissiles, quand les soviétiques installent sur leur territoire des SS-20 à tête nucléaire qui peuvent atteindre des cibles stratégiques à l'ouest. C'est aussi le moment où l'affaire Biermann fait les gros titres outre-Rhin. Le chansonnier est-allemand Wolf Biermann est déchu de sa nationalité et expulsé en RFA. Connu de longue date pour sa critique des dérives du régime communiste, ce partisan d'un socialisme réellement libérateur vient de publier un morceau dans lequel il se compare à un icare prussien qui ne peut quitter son pays natal sans être précipité au sol. Wolf Biermann quitte donc la RDA avec sa compagne et sa belle-fille, une vingtenaire excentrique qui a publié 3/45 tours chez Amiga. Son nom, Nina Hagen. La voilà avec Comme Comme, la face B funk de son deuxième single, enregistré peu avant cet exil forcé.
Komm, wir tragen die Liebe auf die Weide. komm, komm, dann bin ich stark für uns beide. Wir treiben die Liebe auf die Weide. Komm, 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 dann wird sie stark für uns beide.
Pendant que Nina Hagen devient l'égérie du Berlin Ouest branché, de l'autre côté du mur, une icône féminine commence à prendre la lumière à la fin des 70s, c'est Tamara Dance, la chanteuse du groupe Silly, ou plutôt de la famille Silly, puisque les autorités d'Allemagne de l'Est les ont d'abord contraints à accoler une référence germanique à leur nom. Curieusement, les premières sorties de Silly paraissent sur un tout jeune label de RFA avant que le groupe n'intègre l'écurie Amiga. Leur répertoire très commercial évolue avec la mode de l'époque. Le disco des débuts va bientôt céder sa place à une new wave sirupeuse qui a fort mal vieilli. En 1980, leur single « Tanzt keiner Boogie, personne ne danse le boogie » paraît donc d'abord sur 45 tours en Allemagne de l'Ouest, avant d'ouvrir leur premier album, leur première LP, commercialisé l'année suivante en RDA.
Keiner macht den Anfang, der doch wenn ihn keiner macht, sitzt jeder
Grisaille, conformisme, comportement réglementé par des directives et des slogans d'État, dans Berlin-Est comme dans toute la RDA, c'est la normalité qui règne au début des années 80. Ici, être punk, ce n'est pas céder à la dernière mode venue de l'Ouest, c'est d'abord résister contre cette normalité imposée, contre cette négation de l'individualité. Face à ces minots au look déjanté, dont beaucoup sont les rejetons nihilistes de cadres du parti, l'appareil d'État a de sérieux moyens de pression. Les punks étaient filés, observés, écoutés, interrogés, condamnés. Il y avait régulièrement des contrôles d'identités et des arrestations. Pendant les gardes à vue, les prévenus étaient bien souvent forcés de coopérer avec la Stasi, qui avait de subtils moyens de pression, se souvient Michael Bölke, co-auteur de Too Much Future, le seul ouvrage sur l'ost-punk traduit en français. Si elle a mis du temps à réagir, la redoutable police secrète est-allemande a largement infiltré le milieu punk à partir de 1982 grâce à ses 175 000 IM, les Inoffizielle Mitarbeiter, ses informateurs officieux. Durant l'été 83, le ministère de la Sécurité d'État lance même une opération spéciale contre ces antipatriotes, arrestation des principales figures, mobilisation de forces dans l'armée, déportation à l'étranger. Quelques mois plus tôt, le premier festival punk est-allemand a eu lieu à Halle et un petit label de Berlin-Ouest a réussi à récupérer les bandes de deux groupes est-allemands interdits. Cela donne naissance à la compilation DDR von unten, la RDA d'en bas avec de faux noms. Y figure Spion im Café, l'espion au café crédité à Sao Kerle, un alias sous lequel se cachent en fait les Schleimkeim.
Spion im Café, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh, von der Straße bis zum See. Spion im Café, wenn ich sowas seh, tut mir alles weh, von der Straße bis zum See.
Hormis les rares groupes vedettes comme Silly ou Karat, qui écoulent toujours des dizaines de milliers de copies, à partir du début des années 80, le label Amiga assiste impuissant à la baisse de ses ventes plombées par la crise économique qui sévit en RDA après le second choc pétrolier. Pour tenter de relancer la machine, la FDJ, l'organisation de la jeunesse, lance en 1982 le festival Rock pour la paix, un immense rassemblement annuel qui aura lieu jusqu'en 1987 à Berlin-Est, dans le Palais de la République. C'est aussi un acte politique. Le régime veut montrer qu'il s'associe à la colère que provoque la crise des euromissiles entre Moscou et Washington. Alors qu'à l'Ouest, un mouvement de paix massif s'est déjà formé, le pouvoir en RDA voit là un moyen de créer un événement rapprochant les deux Allemagnes. Ce grand rendez-vous vise d'ailleurs à améliorer les relations entre l'État et la scène musicale, proche des mouvements pacifistes qui émergent alors au sein de la société civile de RDA. En 1983, les rockers berlinois de Berlouk ouvrent la deuxième édition du Rock pour la paix avec leur hit antimilitariste No Bomb, un message adressé à Monsieur le Président des USA pour qu'il n'y ait pas d'Hiroshima.
von dieser Erde hier kommt ich nicht los. Und wird die Erde ein riesen Bombenloch, liegen wir alle tot in seinem Schoß. President of America. Hey, Mr. President, here's a crazy star. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich gern sitze auf dem Pulverfass. Ich bin verrückt, doch niemals so verrückt, dass ich mich einfach so abbringen lass.
Grâce aux radios et aux télévisions de RFA qu'on capte très bien de l'autre côté du mur, les teenagers est-allemands découvrent dès le début des années 80 une nouvelle contre-culture venue des ghettos noirs américains. Breakdance, graffiti, DJing et rap, c'est tout l'univers hip-hop qui s'invite alors dans les foyers de la République démocratique allemande, bien loin des canons du réalisme socialiste que promeut le régime d'Erich Honecker. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Beat Streets, le blockbuster américain sur la culture rap produit par Harry Belafonte, obtient son visa d'exploitation en RDA mi-juin 1985, à peine un an après sa sortie à l'Ouest. Le régime communiste, qui se méfie d'ordinaire de tout ce qui vient des États-Unis, voit en effet dans le hip-hop une culture prolétarienne internationaliste de l'autre Amérique. Pour les mômes de l'Est, ce film a en tout cas l'effet d'un électrochoc et plusieurs crews de breakers se créent. À Berlin, où ils dansent sur Alexanderplatz, mais aussi dans plusieurs villes de province. Si les autorités est-allemandes ont toujours voulu garder un œil vigilant sur cette contre-culture venue de l'Ouest, elles autorisaient malgré tout quelques publications dans les médias destinés à la jeunesse. En 1985, toujours, Amiga sort même Electric Boogie avec 2K, un 45 tours de hip-hop socialiste destiné aux B-Boys de RDA. Sur la pochette, un danseur, les pieds en l'air, qui porte de fausses Adidas à deux bandes. We'll be right back. Pendant que les B-Boys est-allemands s'essaient à la coupole sous les téléobjectifs discrets de la Stasi, on assiste à une curieuse alliance au sein des mouvements d'opposition, celle des punks et de l'église protestante. 20 ans auparavant, c'était aux hippies que les pasteurs avaient ouvert les portes de leur temple. Les hippies puis les punks est-allemands n'étaient pas vraiment bigots, mais ils partageaient un ennemi commun avec l'église, le régime socialiste qui les persécutait tous. L'initiative de ce rapprochement entre punk et église revient au pasteur Rainer Eppelmann, un ancien prisonnier politique. En 1979, il lance les messes blues, où les jeunes se réunissent autour de concerts, lectures de passages de la Bible et sketchs politiques. La première attire 250 personnes. 4 ans plus tard, ils seront 7000 à venir dans l'église où officie Rainer Eppelmann à Berlin. Les autorités est-allemandes interdiront finalement les messes blues à l'automne 86, les accusant officiellement de perturber la bonne relation de l'église et de l'État. C'est dans cette mouvance qu'émerge le groupe Feeling Berlin, bientôt rebaptisé Feeling B. Après la réunification, une partie de ces punks formeront Rammstein, les stars du métal allemand. Quelques mois avant la chute du mur, Feeling B avait sorti le premier album punk publié par le label d'État Amiga. Y figure cette adaptation d'un hymne soviétique. En 1987, en pleine perestroïka, Berlin fête ses 750 ans et les deux parties de la ville divisée organisent chacune de grandes fêtes concurrentes. Du 6 au 8 juin, l'immense Concert for Berlin attire 3 jours de suite la jeunesse de l'Est près du mur. Ils sont des centaines, venus écouter les concerts d'Eurythmics, Genesis et David Bowie, et des échauffourées finissent par éclater avec les Vaupeaux. Piqué au vif, la RDA décide de frapper un grand coup pour 1988. Elle monte à son tour un grand festival avec Depeche Mode, James Brown et surtout Bruce Springsteen, alors au sommet de sa carrière. Le 19 juillet, au moins 160 000 fans applaudissent fort l'appel du boss en allemand à faire tomber toutes les barrières en brandissant des bannières étoilées confectionnées à l'arraché.
Es ist schön in Ost-Berlin zu sein. Ich möchte euch sagen, ich bin nicht der Führer oder gegen irgendeine Regierung. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen wie auch Ost-Berliner.
En février 1989, les rockers de Sandow enregistrent leur album sur lequel figure Born in GDR, une chanson qui fait évidemment allusion à ce concert mythique du boss. Nous pouvons aller jusqu'à nos limites. L'avez-vous jamais manqué? J'ai vu 160 000 personnes. Ils ont si bien chanté. Ils ont si bien chanté. Malgré ces paroles, ouvertement contestataires, Born in GDR passe entre les fourches codines d'une censure en bout de course. La chanson est même diffusée sur les radios officielles et devient l'hymne de la chute du mur en RDA. Comme plusieurs autres vedettes est-allemandes, les membres de Sandow sont aujourd'hui un peu amers. 30 ans après la chute du mur, ils ne regrettent pas leur combat contre le régime socialiste, mais ils se désolent des dérives qu'a engendré le libéralisme et de la domination qu'exerce encore l'Ouest sur l'Est de l'Allemagne. C'était Les Sons du Mur, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par Alexandre Fougeron. À la technique, aujourd'hui, il y avait Alex Dang. Vous retrouverez toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. On se retrouve demain sur Les Ondes Longues, à la réécoute de la propagande radiophonique américaine qui façonna les goûts musicaux de l'autre côté du rideau de fer, du jazz à la New Wave.
We feel there will be a ruler. We are born to win.
Jetzt lebe ich. Jetzt lebe ich. Jetzt trinke ich. Jetzt trinke ich. Auf mich. Wir bauen auf. Tapezieren nicht mit. Wir sind sehr stolz.